Bon, on est en onde, les amis. Oui, c'est un fait, c'est un fait. Vous êtes sûrement remis de l'expérience hip-hop de la semaine dernière. Vous avez à peine le temps de reprendre votre souffle, parce qu'on travaille, moi, Stéphane et Ghislain, à aller voir Roger Normandin dans sa métropole de Lac à la Tortue. Qui est Roger Normandin, vous demandez? Mais en fait, pour seule réponse, je vous dirais que l'auditeur est en grosse majorité dans l'ignorance la plus totale concernant tout ce qui touche ce génial cinéaste québécois. On va essayer de guérir ça dans le futur. Avec moi en studio pour l'instant, j'ai deux très charmantes personnes, Isabella et Jeannette, deux Danoises, ainsi qu'un Québécois bien de chez nous du nom de David. Alors, je vous dis salut tout le monde. Vous
pouvez...
Oh yes, merci. Oh, salut Isabella, salut tout le monde. Tiens, communiqué de dernière minute, une étude de 1,6 million $ menée par une équipe de professeurs émérites du département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal a permis de déterminer que les enfants venant de milieux défavorisés ont plus de difficultés à payer leurs études. Le recteur de l'université fait remarquer les réponses hâtives et démagogiques de cette étude. Bon, ben sinon, on est le 17 novembre, puis j'en ai plein le cul de la session. Première partie du conte, le Schtroumpf magicien aujourd'hui. On va avoir plusieurs personnes qui vont lire ça avec nous, la première partie du Schtroumpf magicien. On parle de nos très, très, très aimés inquisiteurs. En fait, je suis très cynique, là. Je vais même en profiter pour vous passer ma vision personnelle de Dieu et de la religion. Ça va peut-être valoir cher dans 10 ans, ça. TC 2000, un film, en tout fait, c'est sûrement le film avec le plus de combats gratuits de tous ceux que j'ai vus et que je suis capable de me rappeler. Une capsule documentaire tirée des Cités d'Or, puis 3 tonnes de grosses guimauves sales, des saucisses, de la bière, puis un beau feu de camp sur le bord du lac Clair. Vas-y, Tragically Hip.
Chronologically fucked up. Pretend
Oh, c'est violent, ça, c'est violent. Sapristi, vous aurez peut-être reconnu la voix de Robert Fripp, le gentil fondateur et peut-être le seul membre de King Crimson qui est là depuis les tout débuts. Avant, c'était Tragically Hip avec Locked in the Trunk of a Car. Tragically Hip qui passe au Centre Bell le 1er décembre. Je pense que je vais vendre un rein pour y aller. Bon, ben, on est rendu au moment où Miss Falstead, dans le rôle du schtroumpf maladroit, David, dans le rôle des autres schtroumpfs, et moi-même, Tommy, dans celui du narrateur, voici la première partie du conte fantastique, le schtroumpf magicien.
Loin, très loin d'ici, au cœur d'une grande forêt, se trouve un village dont les maisons ont la forme de champignons. Là vivent les schtroumpfs, des petits êtres bleus hauts comme trois pommes qui parlent une langue spéciale, la langue schtroumpf. Ils vivent heureux sous la conduite du grand schtroumpf et un autre. Et aucun être humain n'est jamais parvenu à leur village sans que les habitants l'y conduisent. Faites donc connaissance avec les sympathiques schtroumpfs.
Simple as can be.
Next time you're feeling blue, just let a smile begin. Happy things will come to you.
Then smirk yourself a grin.
Ooh, I hate smurfs. I'll get you. I'll get all of you if it's the last thing I ever do.
Alors, par cette belle journée, le soleil brille au-dessus du village des Schtroumpfs. Les oiseaux chantent gaiement, les papillons zigzaguent de fleur en fleur, et les Schtroumpfs, comme toujours, sont actifs. Le grand Schtroumpf surveille les préparatifs pour le festival. Le Schtroumpf gourmand prépare de bons gâteaux. Mais le Schtroumpf paresseux, lui, s'est caché pour dormir. Le Schtroumpf maladroit, qui veut se rendre utile, transporte un énorme tas de bûches. Comme il ne voit pas où il met les pieds, il trébuche sur un râteau laissé par le schtroumpf paysan. Il tombe avec fracas. Kaboum! Le schtroumpf paresseux ouvre un œil et dit d'une voix endormie:
voyons, schtroumpf maladroit, fais un peu moins de bruit, tu m'empêches de schtroumpfer mon petit roupillon.
Juste à ce moment, le schtroumpf bricoleur arrive au volant de sa moissonneuse schtroumpfeuse. Il ne peut éviter les bûches sur le sol. Sa machine dérape et va s'écraser sur le mur de la maison de la schtroumpfette.
Schtroumpf maladroit, la prochaine fois, ne laisse pas traîner les bûches n'importe où.
Je ne l'ai pas schtroumpfé exprès.
Marmonne le schtroumpf maladroit. Entre-temps, le schtroumpf gourmand s'est installé dans son jardinet pour prendre son troisième petit déjeuner. Le schtroumpf farceur surgit.
Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi? Qu'est-ce que c'est?
Le schtroumpf gourmand dénoue le ruban et pouf! La boîte explose. Gâteaux et pâtés volent dans les airs. Une splendide charlotte aux fraises décrit un arc et splat! Retombe sur la tête du schtroumpf à lunettes. Au même instant, le schtroumpf maladroit, qui a ramassé ses bûches, heurte le schtroumpf farceur. Les trois schtroumpfs s'écroulent l'un sur l'autre et le schtroumpf à lunettes commence à faire la morale selon son habitude.
Tu devrais prendre garde, schtroumpf maladroit, car un accident est vite schtroumpfé et un schtroumpf peut en cacher un autre. D'ailleurs, le grand schtroumpf dit toujours...
Ce n'est tout de même pas ma faute si je ne suis pas habile.
Réplique le schtroumpf maladroit. Plus tard, le schtroumpf maladroit erre dans le village.
Tout le monde m'en veut, personne m'aime, je suis bien malheureux.
Songe-t-il. Il passe devant la fenêtre du laboratoire du grand schtroumpf qui prépare une expérience. Il mélange des produits, les fait bouillonner dans un creuset, s'apprête à déposer une goutte de liquide sur une graine dans un pot à fleurs.
Espérons que ça marchera.
La goutte tombe. L'expérience a réussi! Wouhou! Des fleurs, des belles fleurs multicolores ont poussé d'un seul coup. Le schtroumpf maladroit n'en revient pas. Et le soir, dans son lit, il songe que s'il pouvait, lui aussi, faire de la magie, il serait peut-être moins maladroit. Il décide d'aller explorer le laboratoire du Grand Schtroumpf quand celui-ci sera absent. Le lendemain matin, le Schtroumpf maladroit se rend au laboratoire. Comme la porte est fermée à clé, c'est par la cheminée qu'il s'introduit dans la pièce. Alors, il se met à mélanger des ingrédients au hasard et sa préparation lui explose à la figure, tout comme les cadeaux du Schtroumpf farceur.
Je vais plutôt regarder ce qui est écrit dans les grimoires du Grand Schtroumpf. Il y a peut-être là une formule qui rentre à toi.
Mais soudain, la porte s'ouvre!
Schtroumpf maladroit, que fais-tu ici?
Lui demande le Grand Schtroumpf.
Je venais pour schtroumpfer un coup de balai, Grand Schtroumpf.
Très bonne idée, prends celui-ci,
dit le Grand Schtroumpf. Tout en balayant, le Schtroumpf maladroit se dit que peut-être ailleurs, il trouvera des formules magiques. Par exemple, chez le vilain sorcier Gargamel, l'ennemi des Schtroumpfs. Il s'enfonce dans la forêt et arrive à la masure du sorcier au moment où celui-ci en sort avec son chat Azrael. Vite, le Schtroumpf maladroit se glisse par la fenêtre ouverte et s'approche des grimoires du sorcier. Mais où trouver la bonne formule magique? Laquelle choisir? C'est à ce moment qu'un bruit de pas retentit au dehors. Et c'est à ce moment qu'on vous dit à la semaine prochaine.
Oui.
Ben, merci au lecteur. David, je te laisse avec la petite fiche.
Une petite nouvelle, fête anniversaire. Dans un groupe de 23 personnes, il y a une chance sur deux que deux d'entre elles aient le même jour anniversaire. Dans un groupe de 5, il y a 3 chances sur 100. Dans un groupe de 15, il y a une chance sur 4. Il s'agit là d'une bizarrerie statistique. Quand l'importance du nombre du groupe augmente, le nombre de coupes possibles augmente aussi, mais beaucoup plus vite. Par exemple, dans un groupe de 5, il y a 10 coupes possibles. Dans un groupe de 23, il y en a 253. Dans son livre « Madame Chance », le mathématicien Warren Weaver raconte comment ce curieux fait se glissa dans la conversation lors d'un dîner en l'honneur de quelques officiers pendant la Seconde Guerre mondiale. La plupart des compagnons de table de Weaver trouvaient incroyable que le nombre ne soit que 23. Ils pensaient qu'ils auraient dû tourner aux environs de 100. Quelqu'un fit remarquer qu'ils étaient 22. Chaque invité annonça alors sa date de naissance et elles se révélèrent toutes différentes. Alors la maîtresse de maison prit parole. « Excusez-moi, dit-elle, je suis la 23e personne dans cette pièce et je suis née le 17 mai comme le général. » Oh, c'est fin, hein? Tout ça pour dire que tout le monde peut avoir une date en même temps qu'un autre. Hein?
C'est un fait. On n'écoute pas qu'à tête.
We'll be right back.
Vous avez peut-être reconnu là-dessus la voix de Les Claypool, chanteur et peut-être membre fondateur de notre groupe, ben en fait de mon groupe ami, Primus. Les Claypool qui m'a bien sûr vu avec mon poing dans ma bouche un moment immémoriable. C'est-tu un beau mot ça? Je ne sais pas en tout, ça avait l'air prétentieux en tout cas. Là, je vais vous faire écouter un petit bout. Un petit bout qui vient d'un film qui s'appelle Les Mallrats. Puis après ça, on va en discuter tout seul, hein, parce que tout le monde est parti.
Ils sont fiancés.
C'est pas grave, ça compte pas.
Pourquoi, puisqu'ils s'aiment?
C'est impossible. Lois ne pourra jamais être enceinte de Superman. Ses trompes de Fallope ne pourront jamais contenir son sperme. En déchargeant, il lui trouerait le vagin jusqu'à la colonne vertébrale. Et puis t'as vu son ventre, il est pas assez fort pour porter son gosse.
Mais pourquoi?
Ce serait un extraterrestre. Son organisme kryptonien grandirait trop vite à cause de notre soleil. Si Lois chope un coup de soleil, le gosse lui remonterait dans l'estomac. Seule une femme comme Wonder Woman aurait l'utérus assez fort pour porter son gosse. Le seul truc, s'il veut baiser les terriennes, c'est de mettre une capote en kryptonite. Et ça le tuerait.
Ça, c'est les vraies valeurs, hein, quand même. Pauvre Superman. Souvent, on pense pas à ça, les aléas de la vie du super-héros, la super-force et toutes ces belles choses-là. Là, on est rendu au moment où je vous parle de Clowns sans frontières. Il y a une fin de semaine très spéciale qui s'en vient pour Clowns sans frontières, c'est-à-dire le 20 novembre. J'avais déjà commencé à en parler, mais le 20 novembre, c'est le jour-né. Peut-être à l'échelle internationale d'abord, c'est la déclaration. En fait, ça va être le 15e anniversaire de la déclaration des droits des enfants par l'ONU. 122 pays qui ont signé un beau petit papier faisant des enfants finalement des personnes. Pour commémorer ça, au Québec, on fait le jour-né. Le jour-né, c'est une journée durant laquelle on essaie de vendre le plus de nez de clown possible avec Clowns sans frontières. On essaie de faire que cette journée soit un symbole dans l'année durant laquelle tout le monde porte un nez de clown pour essayer de faire un pied de nez à la guerre. Clowns sans frontières, comme vous le savez, qui est un organisme humanitaire qui envoie des clowns dans toutes sortes de régions du monde pour faire une espèce d'osmose du bonheur, envoyer du plaisir là où les gens en ont un petit peu moins. Dernièrement, j'ai mon ami Jaco, mon nouvel ami, qui est allé en Haïti. En Haïti, je pense que j'en ai déjà parlé, mais le pays qui a réussi à battre le Myanmar et le Bangladesh et la Colombie au titre très prestigieux de pays le plus corrompu du monde, selon l'Association mondiale du journalisme. Ça, c'est quand même un prix qu'on laisserait à n'importe qui d'autre, n'importe quand. Alors, on pense aux Haïtiens. On travaille fort pour leur amener un petit peu de joie, un petit peu de bonheur. Clowns sans frontières qui fait des spectacles bénéfices, spectacles bénéfices au Québec, mais qui fait des spectacles gratuits là-bas. Devant 1000, 2000, 3000 jeunes enfants qui souvent sont sans nom, sans papier, sans maison, sans parents, sans encouragement. Pour travailler également dans le développement durable, Clowns sans frontières, depuis 2 ans, essaie de former des jeunes de la rue là-bas aux arts du cirque. C'est assez, touchant de voir comment ces jeunes-là apprennent vite à jongler quand que finalement, pour la première fois de leur vie, quelqu'un leur fait confiance. On va passer en musique. Je sais que d'habitude, faut pas dire on va passer en musique, mais je voulais annoncer cette prochaine chanson qui vient de la trame sonore du Fight Club, qui est pour moi le meilleur film de tous les temps. Ça, c'est pas cynique, c'est très vrai. C'est le seul film auquel j'ai donné 9.5 parce que j'ai l'impression que dans le Fight Club, tous les messages sont pas seulement réglés, mais en plus, ils proposent une alternative qui est, à mon sens, très humaine. Peut-être qu'il y avait de la violence, mais peut-être qu'on est trop en train d'essayer de se sauver de notre nature. Oh, pour moi, il va falloir que je développe un autre fois. Je vous laisse avec Brad Pitt et les Dust Brothers.
And you open the door and you step inside. We're inside our hearts. Now imagine your pain is a white ball of healing light. That's right. Your pain, the pain itself, is a white ball of healing light. Doesn't get any better than this. This is your life, and it's ending 1 minute.
welcome to Fight Club. If this is your first night, you have to fight.
Certains auront peut-être reconnu la voix langoureuse et sensuelle de Perry Farrell, qui retournait à la barre de son premier groupe, ses premières amours. Ça, c'était Porno for Pyro avec Pets. Mais maintenant, le sieur Farrell est retourné avec son premier groupe, c'est-à-dire Jane's Addiction. On va lui souhaiter plein de joie, du bonheur, puis des femmes en masse, tiens. Alors, à partir de maintenant, et selon mon bon vouloir dans le futur, on va écouter de petits documentaires tirés d'une émission pour enfants que tout le monde connaît. Faut pardonner l'audio, c'est quand même des très vieilles cassettes, mais ça va valoir la peine, je vous le promets.
Ban vient donc de partir à la recherche des mystérieuses cités d'or. Ces villes existent-elles réellement? Depuis de nombreuses années déjà, des expéditions espagnoles ou autres étaient parties à leur découverte. Leur recherche était basée sur une légende ou sur une simple pépite d'or trouvée par hasard. Récemment, on a retrouvé les ruines d'une grande cité construite dans la montagne. Entendait les indigènes raconter une bien intéressante histoire, celle d'une cérémonie au cours de laquelle le chef d'une tribu montagnarde de Colombie, enduit de poussière d'or, entrait dans un lac. La poussière d'or se répandait à la surface de l'eau et ceux de la tribu jetaient en offrande de l'or, de l'argent et des émeraudes. Ce sont ces légendes qui poussèrent les explorateurs à pénétrer au plus profond de la jungle. Les habitants du Nouveau Monde vénéraient le soleil comme un dieu, que le soleil se lève aujourd'hui comme demain. Et c'est pourquoi certaines coutumes voulaient que l'on offre le cœur d'une jeune fille en sacrifice au dieu soleil. Était différente de la nôtre, et c'est pourquoi les cités d'or peuvent être cachées dans les endroits les plus inattendus. Esteban parviendra-t-il à les retrouver? Suivons-le dans sa recherche. Au revoir et à bientôt.
Astérix est là.
Ça faisait longtemps que je cherchais une toune de Plastic Bertrand à vous faire jouer, puis comme j'avais pas vraiment envie de parler de bande dessinée cette semaine, je me suis dit pourquoi pas le thème? Pourquoi pas le thème d'Astérix chanté par Plastic Bertrand? Là, justement, on écoute le fade-out interminable de ce spécialiste des tounes de 3 minutes à 2 refrains. À 2 couplets. Pour l'instant, on va parler de TC2000. Si vous avez des enfants en bas âge, je sais que c'est encore la toune d'Astérix, qu'on a du plaisir, mais vous devriez franchement les éloigner de la radio parce que TC2000, c'est sûrement le film le plus démesurément loadé de combats inutiles, caves et violents que le souvenir fait vivre dans mes cellules d'autant plus grises en cette fin de novembre, pas de hockey. Bon, ben, je vais commencer par le résumé officiel, parce que j'ai l'original de celle-là. L'histoire se déroule dans le futur, en l'an 2020, dans une société chaotique où les autorités sont aux prises avec un gang de dangereux criminels. Bon, à date, on est en terrain connu. Jason Storm, Billy Blanks, et sa partenaire Zoe Kinsella, Bobby Phillips, sont des policiers high-tech travaillant sous les ordres du contrôleur, dont le but est de maîtriser Nicky Picasso, Jalal Mehri, et sa bande de brutes. Lors d'une attaque de Nicky, Zoé est tuée, mais son corps est transformé et devient une machine à tuer totalement invincible, un cyborg. Lorsque Jason apprend que la mission de Zoé est d'exterminer les gangs et que le but du contrôleur est de dominer le monde, on est vraiment dans l'original, il change de clan et se joint à Sumai, Bolo Young. Dans une spectaculaire finale où les scènes de combat et les effets spéciaux se partagent la vedette, Jason et Sumai devront affronter les forces combinées de Zoé et de la police du contrôleur. La superstar, c'est Billy Blanks. C'est lui qui joue le rôle de Jason, policier d'un futur totalement invraisemblable dans lequel la population humaine tout entière existe dans des souterrains miteux décorés par des canalisations. Je développerai pas trop sur cet acteur douteux accompli qu'est Billy Blanks, puisque nous ferons sûrement une chronique sur un autre de ses excellents films avant Noël. Pour l'instant, j'aimerais décrire la journée de travail du héros que le film nous fait vivre. Donc, après un premier combat dans la zone extérieure, Jason relaxe au commissariat en se battant avec un collègue. Ensuite, de retour au boulot, Jason doit aller botter un gang de rue dirigé par le très méchant Nicky Picasso. La vie étant ce qu'elle est, sa coéquipière se fait tuer durant ce combat. On apprendra plus tard que le sergent de police qui les a trahis, en somme, c'est une affaire personnelle maintenant. Comme le boss est un traître, il fait porter le chapeau de l'assassinat à Jason, qui réplique en cassant la gueule de la majorité de ses collègues et en s'évadant pour mener sa propre enquête d'autant plus personnelle. Après avoir réussi à s'évader du commissariat, Jason croise un gros nabzlet dans une ruelle. Il réagit instinctivement et immédiatement en lui crissant une méchante volée. Finalement, pour se payer de quoi manger, notre ami fugitif participe à un combat de rue, quoi d'autre, pour gagner l'argent lui permettant de se payer un bon vieux rat burger du futur. Ça là, c'est une journée de travail. Outre le sublime Billy Blanks, ce douteux mémorable met également en vedette Jalal Mehri, Bolo Young, Mathias Hughes et un moustachu vraiment très très fade. À noter, l'imbécile de programmeur qui a décidé de programmer son ordinateur du futur avec cette voix-là.
Code 3. Alerte sécurité code 3. Attaque des breakers en cours. Toutes les unités TC disponibles demandées.
C'est ça, c'est le moment.
Eh ben, ça sera pas pour aujourd'hui, la soirée relax.
M'en doute.
Des trackers, quelle chance. À l'heure pour mourir.
On doit pas avoir la même heure.
Vous avez gagné le respect de mon père, tracker. Ça n'arrive que rarement.
Je m'appelle Jason. J'ai aidé votre père. Ensuite, il m'a aidé. En ce qui me concerne, nous sommes quittes.
Il souhaite quand même vous remercier.
Comment allez-vous récupérer? Elle vous appartient. Vous auriez gagné ce match de toute façon. Mais j'accepte d'échanger cette eau contre un bien plus précieux pour moi. Un renseignement. Je cherche un homme qui a des peintures sur le visage.
Nicky Picasso.
Oui, c'est sûrement lui, avec un nom pareil.
Peu nombreux sont ceux qui ne connaissent pas Nicky Picasso.
Et qu'est-ce que tu lui veux?
Il a tué mon équipière, et je veux le retrouver.
Il me terrorise depuis des années.
Pourquoi n'avoir rien tenté contre lui? Sumai, tu es un guerrier. Pourquoi n'as-tu rien fait?
Je ne peux rien tout seul.
Nicky, lui, a sa bande.
Eh bien, on n'a qu'à faire comme lui, tout bêtement. On recrute de bons éléments et on va lui rendre visite.
Seuls les Lifers peuvent affronter Nicky Picasso.
Alors on y va avec les Lifers et le problème est résolu.
Les Lifers ne sont pas nos alliés, ce sont tous des criminels. Ils forment une confrérie. Ils protègent la station terminale.
La station terminale?
C'est une usine où sont entreposés des missiles destinés à la guerre chimique. L'humanité entière devait être totalement anéantie. Mais la couche d'ozone s'est reformée toute seule.
C'est complètement fou.
Nous y sommes, Nicky. C'est la porte de la station terminale.
Ça va pas être facile.
Tout ce qui vaut le coup ne devrait jamais être facile.
T'aimes vraiment la difficulté, toi?
Et ça la perdra!
Celui-là, il est pour moi!
On va sortir le grand jeu ici.
Deux derniers catalyseurs chimiques, lancement dans 2 secondes. Exécution de toute réaction chimique pour la destruction de la vie à la surface du globe. La destruction commencera dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Oui, la vie. Zoé en grec veut dire la vie. Vous connaissiez bien mon père.
Il me l'a appris.
Ah!
Comme c'est touchant, hein, quand même. Moi, j'aime beaucoup le fait original que le countdown s'arrête à 2 à place de s'arrêter à 1. C'est quand même assez spécial. Pas très long, les extraits, parce que TC 2000, c'est plutôt douteux visuel que audio. Tellement de combats. Mais moi, j'aime quand même entendre les bruits des combats. En tout cas, pour TC 2000, moins 8 sur 10. Ça se trouve sûrement encore dans les clubs vidéo. Ça vient des années 90. Production Pépin Méry. On en reparle d'eux autres aussi. Là, on est rendu au jour et la nuit. Je pense que ça va probablement être le plus gros contraste entre une toune, entre deux tounes que vous pouvez imaginer. Hein. En tout cas, je pèse play, là.
silent mirror and fish for bitter minnows amongst the weeds and slimy water.
Une émission de radio avec une vieille toune de Genesis a pas mal tout le temps été dans mes fantasmes numéro 1. J'aurai pas le temps de lire cette semaine ma feuille sur les gentils inquisiteurs. On reviendra la semaine prochaine, ça va juste le faire encore plus mal, hein? 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 Ceux qui restent, là, entendez ça, hostie. Sinon, la semaine prochaine, on va avoir la deuxième partie du Schtroumpf magicien, toujours avec Isabella et David. On va tester pour vous un lance-croquette. Je viens finalement de me rendre à la fin de Paper Mario 2. Je vais pouvoir le critiquer, ou plutôt l'encenser pour vous. Le film, ça va être Neon Maniac. On va frôler le psychotronisme et explorer l'horreur douteux. Là, c'est des extraits de Rygar, un bon vieux classique du NES. Je dis salut à tous les godettes parce que j'avais salué personne. À la prochaine.
Soirée de Satan, touché par tes mains. Matin de sommeil, Choc, tu m'émerveilles. Vous êtes à l'antenne de Choc FM. la radio haïku de Montréal.
One, two, testing.
Un, deux.
Wow.
Bienvenue à Sous haute surveillance ici en cette journée de procès, Guillaume. Alors, comment ça va tout d'abord? Est-ce que ça va bien, Guillaume, aujourd'hui?
Ça va pas, j'ai été trouvé coupable.
T'es été trouvé coupable, toi?
Oui.
Ou tu t'es déclaré coupable comme Monsieur Cloutier?
Non, j'ai été coupable. Ah, Cloutier avait un procès aujourd'hui.
Oh, t'étais pas au courant, Guillaume?
Ben non.
Je crois qu'on va s'en reparler au courant de l'émission.
J'ai oublié de lire le Journal de Montréal, malheureusement.
Mais c'est sujet de ma